Les voiles de Saint-Tropez, c'est tous les jours à 12h et 19h sur Energivar dans le Carré des Voiles. Toutes les coulisses du plus beau rassemblement de bateaux au monde au micro de Rémi Pelletier. Avec Triba, concepteur, fabricant et installateur de toutes menuiseries et stores, les Cyclades à Gassin, Outlet Store by La Clé des Marques, les plus grandes marques à moins 50% avenue Paul Roussel à Saint-Tropez et la sellerie Eke, réparation et conception de sellerie bateaux, auto et moto, zone d'activité rue Condorcet à Cogolin.
Bienvenue pour le Carré des Voiles sur Energivar, toujours dans le village des voiles de Saint-Tropez pour cette seconde semaine des voiles de Saint-Tropez, car l'événement évidemment maintenant s'est allongé sur deux semaines. Je reçois aujourd'hui Georges Corel, le directeur de course des voiles de Saint-Tropez, le principal race officer. Je reçois également Corinne Migraine, qui est la vice-présidente de la Fédération Française de Voile, chargée de la course au large, de l'habitable, donc ce qu'on appelle le inshore, et qui également navigue, ce qui est très important, pendant les voiles de Saint-Tropez sur Lady First. Et je reçois enfin Laurent Bignolas, un confrère journaliste, qui participe aux voiles de Saint-Tropez à sa manière, et qui va nous expliquer ce qu'il y fait depuis déjà bientôt 10 jours. Alors tout de suite, on démarre avec Georges Corel. Vous êtes toujours pressé parce que le directeur de course, il fait quoi précisément ? Notamment sur les voiles de Saint-Tropez, c'est quoi son rôle ?
Bah, il fait tout, il fait rien, il s'occupe des problèmes que les comités de course qui sont sur l'eau ne peuvent pas résoudre en fait. Du style, tiens, il y a le Club Med qui est au milieu du parcours, là on fait comment ? Faut le bouger.
Alors justement, le quotidien, ça démarre j'imagine très tôt, ça se termine très tard le soir.
Alors ça démarre le matin à 9h avec la réunion de tout le monde, où on prend la météo, chacun sa météo, on décide le parcours. Après j'ai quelques heures tranquilles où je peux avoir le départ. Et maintenant c'est le coup de feu parce que le comité est rentré, il faut faire les résultats, ficher les réclamations, ça prend un certain temps.
Alors justement, expliquez-nous, ces bateaux, donc cette seconde semaine, sont les bateaux modernes, les maxi. Quelles sont les conditions maximales pour eux ?
Il y a une grosse différence entre faire la régate et naviguer. Quand on traverse, on prend un coup de vent, on fait le gros dos, on laisse passer, ça va bien. La régate, on essaie le plus vite possible. Bien évidemment, on n'a pas toujours les voiles bien adaptées aux rafales de Mistral qu'on connaît bien. Et ça fait souvent des dégâts.
Et donc ce sont des bateaux, notamment par exemple là, les Wally ou les Maxi en général, en carbone, avec beaucoup d'innovations technologiques qui sont adaptées pour ce genre de régate.
Oui, ils sont bien adaptés, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas prendre de riz dans les grands voiles en carbone. Sinon ils les abîment. Donc on garde les grands voiles hautes tant qu'on peut, et puis bon, ben, le bateau se couche mais n'avance plus. En fait, on perd en vitesse.
Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous de passer d'une semaine à deux semaines en tant que directeur de course ? C'est mieux ? C'est beaucoup mieux ?
Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Où je suis très content, c'est que maintenant, tous les départs peuvent se faire devant la tour du Portalet. Et les modernes, qui n'ont pas été bannis, mais enfin, qui prenaient le départ vers Pampelonne, reviennent dans le golfe. Et ça, pour moi, c'est très très bien.
Donc, ça veut dire pour le public ?
Pour le public, pour le spectateur, pour tout le monde. Même les concurrents, ils sont contents de prendre le départ devant Saint-Tropez. Maintenant, ces grands bateaux qui, au fur et à mesure des années, quittaient les voiles de Saint-Tropez parce qu'on ne pouvait pas leur offrir des parcours corrects. Donc là, ils reviennent cette année. Ben pour nous, c'est fabuleux, c'est pari gagné.
Alors justement, quelques mots sur votre équipe, parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous fonctionnez comment ? Avec des gens de la société nautique de Saint-Tropez, bien sûr.
Alors il y a des gens de la société nautique, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui prennent des semaines de congé pour venir nous aider. Il faut savoir que nous sommes 60 personnes sur l'eau tous les jours pour assurer le bon déroulé des régates. Alors 60 personnes la première semaine, 40 cette semaine, mais ça fait beaucoup de monde quand même.
Et ce sont tous des marins aguerris, durs au mal ?
Pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pas mal au cœur, parce que sur les semi-rigides, c'est pas toujours très facile. Et il y en a qui apprennent sur le tas et qui reviennent tous les ans parce que ça leur plaît.
Vous connaissez Corinne Migraine ?
Oui, bien sûr.
Qui est donc vice-présidente de la Fédération Française de Voile. Alors juste, le lien entre un directeur de course et la Fédération Française de Voile, c'est quoi le lien ?
C'est facile, c'est la Fédération Française de Voile qui nomme le directeur de course. Comme ça, le lien est tout fait.
Donc vous êtes aux ordres de Corinne Migraine ?
Pas complètement, mais elle participe à ma nomination.
Et donc Corinne Migraine, c'est justement l'occasion de vous poser la première question. On laisse partir Georges Corel qui est très occupé. Déjà, en tant que vice-président de la Fédération Française de Voile, on a reçu Jean-Luc Dénéchaud, le nouveau président. Vous faites partie de cette nouvelle équipe qui est en place depuis peu de temps. Quelle est l'image que vous avez des voiles de Saint-Tropez que j'imagine vous connaissez depuis déjà très longtemps ?
Première voile de Saint-Tropez, j'étais très jeune, quoi. C'était, je pense, il y a presque 40 ans, première voile de Saint-Tropez avec le bateau familial qui s'appelait Félicie. Je navigue sur un bateau marseillais qui s'appelle Lady First, qui est un milieu 60. Et là, il y a quand même un magnifique plateau de bateaux. Il y a encore de la place dans le port, hein. Donc j'espère qu'il y en aura encore plus l'année prochaine.
Le fait de se promener sur les quais et de rencontrer comme ça, au hasard, le soir, le matin tôt, des champions, notamment de la voile olympique, qui viennent du monde entier parfois, les plus grosses pointures qui viennent discrètement, qu'on peut aborder comme si c'était des amis et leur parler, c'est unique au monde. monde ici à Saint-Tropez.
C'est la Mecque de la voile ici, mais il y en a plusieurs mecs comme ça dans le monde pour la voile. Et c'est ce qui est merveilleux de notre sport, c'est qu'on peut être sur la même ligne de départ avec un champion du monde, médaillé olympique incroyable comme Torben Grell, et naviguer en famille sur un bateau, et on est sur la même ligne de départ. Donc ça, c'est la beauté de notre sport, comme on a aussi plein de générations sur un même bateau, avec des expériences très différentes. Moi, je suis sur un bateau sur lequel il y a à la fois les copains du propriétaire, et il y a aussi des figaristes, il y a trois figaristes à bord, et il y a deux jeunes, dont une qui est au Pôle France à Marseille en 4-7, Marina Lefort, et il y a Solène Richard qui est également un jeune qui a beaucoup navigué dans l'olympisme et puis qui maintenant se dirige plutôt vers le Figaro. Donc voilà, c'est ce qui est merveilleux de ce sport et c'est ce que j'aime.
Vous parlez des jeunes, il y a un pôle France donc à Marseille, ouais, qui prépare donc à la voile olympique notamment. Ces pôles France, ça fonctionne comment? Parce qu'il y en a un peu partout.
Le pôle, c'est vraiment le pôle de Marseille qui va être sur lequel les spots se mettent aujourd'hui maintenant, où les entraînements vont se faire en vue des JO de 2024. C'est pas très facile pour des coureurs qui se dirigent vers les Jeux Olympiques d'aller faire autre chose que du 4-7. Hein. Donc Marina, c'est la première fois qu'elle monte sur un autre bateau qu'un 4-7. Et donc j'espère qu'on arrivera à construire un peu plus de passerelles entre ces jeunes qui sont de très haut niveau, et on en a beaucoup en France, et de leur donner la chance de pouvoir participer à des régates comme aujourd'hui. Pour eux, ça leur apporte beaucoup dans le futur de leur carrière s'ils veulent se diriger vers la professionnalisation de leur passion. Et je pense que les équipages ont aussi besoin de se rajeunir à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs des bateaux. Moi, je rêve qu'il y ait des places un peu protégées pour des jeunes qu'on pourrait sélectionner pour participer à ces courses sur ces gros bateaux, les Wally et les Maxi. Voilà, il y en a quelques-uns. J'ai croisé Robin Follin qui est sur Magic Carpet. Je pense que c'est des expériences hyper enrichissantes pour eux et pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour les jeunes qui montent sur les bateaux.
On va revenir avec vous très vite sur Paris 2024, donc à Marseille, Laurent Bignolas.
C'est important ce qu'elle dit, Corinne.
Très.
Parce que je trouve que c'est aussi symptomatique de ce qui s'est passé en France depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on est quand même un des rares pays à savoir faire le lien entre une jeune génération qui pratique de la voile légère, on va dire, vers l'habitable, effectivement, et on sait le faire de la même façon qu'on a su le faire dans l'industrie nautique et mettre en valeur toutes ces formations que l'on maîtrisait en France et créer un vrai secteur économique et sportif. Et je crois qu'on peut faire cocorico de temps en temps grâce à des gens comme Corinne et à d'autres. Je veux dire, parce que sur les classiques aussi, parce qu'il y en a quand même chez les Maxi quelques classiques, faut pas non plus dire c'était les anciens la semaine dernière et sont les nouveaux d'après-demain cette semaine, c'est pas vrai.
Alors Laurent Mignolas,
oui, pardon,
observateur averti des choses nautiques, d'abord votre présence à Saint-Tropez, c'est pas la première fois, vous connaissez l'événement?
Alors j'ai connu tout jeune avec mon sac de couchage et un sac de routard sur les épaules avec des copains, période que j'oublierai sans doute dans quelques années, puis il y a 2-3 ans j'étais repassé effectivement, puis là cette année je suis content et de vivre cette nouvelle formule sur laquelle je m'interroge, hein, les classiques d'un côté, les maxis de l'autre. Et là, ici à Saint-Tropez, on a au moins le loisir de voir des départs et quelques arrivées si on est patient. Donc ça, c'est vachement important à mes yeux.
Et donc Laurent, vous êtes oui, là pardon. Pour raconter un peu
oui.
les voiles de Saint-Tropez 2021, on va dire.
Oui.
Avec, j'imagine, un angle, des objectifs pour raconter une histoire.
Bah, avec Hervé, le réalisateur.
Hervé Corbière. Mathieu.
Oui, bien sûr.
Le grand Hervé Corbière.
Et avec Mathieu à la caméra, on est assez complices pour savoir ce qu'on veut faire tous les trois. Et c'est vrai qu'on a envie de raconter ici des histoires. C'est couillon parce que ça fait 40 ans qu'il y a des histoires qui se racontent ici à Saint-Tropez. Et puis que c'est une belle histoire avec un grand H, mais bourrée de petites histoires qui sont assez sympas à raconter. Alors c'est facile avec des bateaux dits classiques qui ont parfois plus d'un siècle d'existence, où effectivement il s'est passé des tas de choses. Je pense à Marge avec Plein Soleil, le tournage avec Alain Delon, etc. Mais Manitou, pourquoi pas Manitou, le bateau de Kennedy, quand même.
La Maison Blanche flottante.
Oui, alors, dans laquelle on rentre pas très facilement. C'est difficile, on peut faire planer le doute. Bon, bref, il y a des mystères, il y a des légendes autour de tous ces bateaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Saint-Tropez qui vit avec ses pêcheurs, je les oublie pas. Moi, je suis parti avec eux un matin mouiller les bouées, les bouées pour la zone de sécurité pour empêcher, soi-disant, tout le monde de gêner le départ. J'ai quand même rencontré des gens qui sont pêcheurs depuis 9 générations ici, qui participent aux voiles, Donc, ce n'est pas parce qu'il y a de la voile et qu'il y a un événement nautique qu'il n'y a pas de vie locale, bien au contraire. Et je trouve ça très bien. Georges parlait des bénévoles.
Georges Corrèze.
Oui, absolument. Mais il y a toute cette population qui est là, qui, j'ai l'impression, à l'occasion de revivre ici, sa vraie vie, finalement, de Saint-Tropez.
Donc, vous avez choisi des personnages qui ne sont pas que des régatiers, voilà, des gens exactement. De Saint-Tropez, des gens qui ne sont pas forcément des marins.
Mais qui sont liés aux voiles et qui sont heureux de vivre les voiles et de voir ces rendez-vous et de croiser les sportifs, comme moi, j'ai le plaisir de les retrouver aussi.
Donc ça sera un film, oui. Un documentaire.
C'est ça, 52 minutes.
Qui sera diffusé
le mois prochain, laissons planer le mystère. Je crois qu'ici à Saint-Tropez, on a une expérience, on a une vie, on a une histoire et qu'on la transmet. On la transmet dans le sens positif du terme et qu'effectivement on a un croisement, un carrefour de générations qui s'entendent très bien. Et c'est une poulie qui tourne vraiment très bien, un beau réa.
Les fameuses passerelles.
Exactement, si l'on peut dire.
Donc il y a une vie après Télématin.
Heureusement, et avec, et en dehors, et après, et avant aussi.
Donc ça veut dire que vous allez continuer à sillonner la planète.
À me réveiller tôt pour aller naviguer le plus vite possible.
Donc il y aura d'autres documentaires.
J'espère, je suis toujours plein d'espoir, comme certains bateaux sont pleins d'espoir.
D'accord, mais pas que sur...
Elle est jolie, non ? Elle est pas mal, non ? Merci, merci, applaudissements.
Mais pas que sur les grands événements nautiques, ça peut être dans d'autres domaines.
Mais la vie du littoral est étroitement liée effectivement à la vie du grand large, vous savez. Si vous trouvez des Français en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et partout dans le monde, c'est parce que vous avez des gens qui, un jour ou l'autre, par la force du travail, parce qu'ils avaient des familles, des responsabilités, parce qu'ils avaient soif d'aventure, bref, pour mille et une raisons, ou parfois parce qu'ils étaient pourchassés, sont partis non pas à la conquête du monde, mais à la conquête de leur vie sur cette planète. Donc ils en ont fait le tour et nous on continue tout simplement. Et je pense que chacun y pense. Vous savez, sur l'eau, Rémi, tout le monde le sait ici, celui qui signe le tableau tous les jours, voire plusieurs fois par jour, est quand même un sacré peintre de la marine. Parce qu'il nous offre un spectacle fabuleux. Et l'homme l'a toujours accompagné en dessinant les bateaux les plus beaux, les plus osés, quelquefois les plus audacieux. Et que ce soit un bateau dit classique avec son élégance et sa puissance, doit pas avoir honte à l'ombre des maxis qui sont démesurés, mais qui sont beaux, quoi.
Merci Laurent. Corinne Migraine, vice-présidente de la Fédération Française
Merci
de Voile,
beaucoup.
En charge de la course au large et de l'habitable, et Laurent Binelas qui va nous présenter prochainement, on ne sait pas la date, c'est un mystère, un grand film sur les voiles de Saint-Tropez 2021 sur France 3. Nous on se retrouve très vite pour la suite du Carré des Voiles sur Energiva. Merci à toutes et tous, et merci à Georges Corrèze qui nous a rejoint malgré son emploi du temps de Premier ministre. À très vite.
Le Carré des Voiles, le rendez-vous quotidien des voiles de Saint-Tropez, au micro de Rémi Pelletier sur Energivar, avec Triba, Menuiserie et Store, les Cyclades à Gassin, Outlet Store by La Clé des Marques, avenue Paul Roussel à Saint-Tropez, et la sellerie Eke, sellerie bateau automoto, zone d'activité rue Condorcet à Cogolin.